Chapitre 13 Pierre ou quoi, il y a longtemps de cela, dans le petit village où nous vivions, nous avons pu observer beaucoup de phénomènes étranges, dans la maison où nous habitions, comme celui-ci dans cet endroit, on distribuait des vivres de toutes sortes, puisque c'était une espèce de magasin du village, là-bas on trouvait de tout et on faisait du crédit aux gens très pauvres qui ne pouvaient pas payer tous les jours ce qu'ils achetaient. On leur octroyait des reçus à payer, qui devaient être réglés chaque semaine. Mais, la plupart des hommes buvaient beaucoup d'alcool, et ils dépensaient l'argent qu'ils gagnaient dans la boisson, ce qui occasionnait des drames dans les familles, puisque dans de nombreux cas, l'argent de plusieurs semaines restait sans payer. Un des débiteurs, qui se refusait absolument à payer, et qui avait la réputation de pratiquer la sorcellerie et, parfois, il s'en vantait, lança une menace si on voulait encore lui faire payer, on allait le regretter. Une nuit, il se posta à 100 mètres environ du magasin et dans notre maison, contiguë au magasin, on commença à entendre le bruit des coups de pierre, lancés sur les murs et les toits, comme si une multitude jetait d'énormes pierres avec force, à tel point qu'il semblait que la maison allait s'écrouler. Un membre de la famille s'aventura à regarder par la fenêtre, et il ne vit que le sorcier qui, le regard fixé sur la maison aurait dit, que de ses yeux sortait du feu, avec un sourire ironique et faisant de grands gestes, prononçait des mots inintelligibles. Quelque temps après, on aurait dit qu'une grande quantité de pierres s'amoncelait et que sortir de la maison allait devenir impossible. Une fois que l'individu se retira, les bruits cessèrent et tout se retrouva dans le calme et la tranquillité. Un peu plus tard, nous sortîmes, pour voir ce qui s'était passé, et nous dûmes nous rendre à cette évidence, il n'y avait même pas un grain de sable. Ceci causa une certaine épouvante parmi les gens du village, qui désormais eurent peur de ce monsieur. « Maître, pourriez-vous nous expliquer ce qui se passa réellement ?» Répondre je répondrai à votre question, avec le plus grand plaisir. Il s'agit évidemment d'un magicien noir, d'un individu au pouvoir dangereux. Il prononçait, c'est ostensible, des mots magiques par lesquels il commandait certains ténébreux. Bien sûr que ce phénomène de pierre terrorisait les gens. Les inconnus fantômes peuvent, certes, lancer ces pierres. En réalité, ces dernières voyageaient dans la quatrième dimension, et elles auraient même pu se rendre momentanément visibles, puis disparaître et revenir à leur point de départ. N'oubliez pas que dans la quatrième dimension, tout revient à son point de départ. Si un fantôme jette une pierre, là-bas, avec l'intention de la rendre visible dans le monde physique, celle-ci reviendra par la suite à l'endroit d'où elle était partie. En ce moment, me vient à la mairie, le cas de monsieur dont je tairai le nom, il était aussi sorcier, de toute évidence, il avait toujours dans son sac, une pièce de monnaie de 50 centimes avec laquelle il pouvait passer la nuit à boire, de bar en bar. Les gens racontent que cette personne, allait n'importe où et demandait de la bière, du pain, tout ce qu'il voulait et il payait avec cette monnaie. Ce qui est curieux, c'est qu'à un moment donné, quand il était sur le point de partir, il appelait sa monnaie en prononçant le nom d'une femme dont je ne me souviens pas en ce moment et la monnaie retournait à son sac. Ce monsieur était un magicien noir, qui n'avait besoin que d'une monnaie pour vivre. Il ne fait aucun doute qu'il possédait de terribles pouvoirs psychiques, et qu'il pouvait commander à certains démons, qui lui obéissaient. 2. Dans le village où je vivais, un petit vieux me racontait tous les événements bizarres, qui avait eu lieu dans cette région. Il me raconta, un jour, qu'un paysan avait des problèmes avec un garde, et que cette dispute donna lieu à une lutte à coups de machette au cours de laquelle le garde mourut. Le paysan cacha le corps au milieu des roseaux de la rivière. Peu de temps plus tard, courait le bruit, parmi les voisins, selon lequel ce paysan était traîné quotidiennement par le mort, cela se passait pendant la nuit, d'après ce qu'il disait. Certains l'entendirent dialoguer avec le défunt, lui demandant pitié et pardon pour l'assassinat qu'il avait commis. Les voisins décidèrent de l'interroger sur ce crime, et le paysan confessa qu'il s'agissait du garde disparu, et leur dit qu'il trouverait le cadavre dans les roseaux de la rivière. En effet, ils trouvèrent le cadavre en état de putréfaction. Plus tard, le paysan fit dire des messes, grâce auxquelles le mort cessa définitivement de le gêner. Est-il possible que ce qui m'a été raconté puisse arriver, maître ? Répondre votre récit est extraordinaire, mon grand ami. Je crois fermement que l'ex-personnalité du mort a pu se rendre visible et tangible, à certains endroits, avant sa dissolution finale. Je me permets de répéter que, ce qui se rend visible et se manifeste d'une manière quelconque dans le monde physique, ce n'est pas l'âme, pas plus que l'esprit du défunt, mais son ex-personnalité. Cette dernière, pour être de nature presque physique, peut se manifester dans le monde à trois dimensions, spécialement dans les trois premiers jours de sa mort. C'est ainsi qu'on peut comprendre le cas relaté par vous. Il est clair qu'on a pu éloigner le fantôme vengeur par des prières et des rituels. Sans aucun doute, le sang a un pouvoir magnétique très particulier. Goody justement c'est un fluide très spécial. L'auteur d'Ainsi parla Zarathoustra, Friedrich Nietzsche, dit « Écris avec du sang, et tu apprendras que le sang est esprit ». Il y a une certaine relation entre l'assassin et la victime, à cause du sang. La victime, grâce à l'agent du fluide vital répandu, peut se rendre visible et même tangible devant son assassin. Il existe, dans le monde oriental, quelques sectes de magie noire où on invoque les défunts. Des fanatiques dansent entraînés par une frénésie grandissante, se blessant mutuellement à coups de couteau. Bien évidemment le sang est versé et, au moyen de cet agent fluidique, les démons invoqués se matérialisent, devenant totalement visibles et tangibles dans le monde physique. Il est clair que ces sorciers danseurs sont des candidats sûrs pour l'abîme et la mort seconde. J'ai connu le cas de matérialisation extraordinaire. Il y a quelques années, quand le maître Garga Cuichin Julio Medina est venu en cette ère mexicaine, nous avons été témoins d'un de ces cas, réellement insolite. Nous marchions tous les deux dans l'avenue Cinco de Mayo, lorsque nous vîmes, dans un coin de rue, un homme et avocat dont je ne mentionnerai pas le nom, qui se dédiait aux pratiques d'Hatha Yoga. Nous nous approchâmes de lui et, personnellement, je lui serrai la main, le saluant très cordialement, puisque nous étions amis. Dans ce coin de rue, nous bavardâmes tous les trois, les passants, pour ne pas bousculer le licencié, faisaient le détour. Nous nous séparâmes et le licencié continua à marcher sur cette avenue, jusqu'à l'Alameda centrale. Fait étrange, il portait un chapeau blanc bordé d'un ruban noir, ce qui ne laissa pas de m'étonner, car jamais de la vie il ne portait pas de chapeau. J'ai expliqué à Julio Medina que je ne lui avais pas présenté cet ami, car je considérais que, comme il se dédiait au Hatha Yoga, il ne pouvait y avoir aucune affinité entre eux. J'ai expliqué que cet avocat était juge et qu'il avait été avec nous pour étudier la gnose. Et nous continuâmes notre chemin. Quelques jours plus tard, je rencontrai mon ami Salalinar dans le village de Santiago de Tepalcatlalpan et je lui racontai cette rencontre. Grande fut ma surprise quand mon ami me fit savoir que cet avocat que j'avais rencontré dans l'avenue Cinco de Mayo était mort depuis plusieurs jours. Il insista, voulant m'expliquer ce qui s'était passé. Tu as rencontré un mort, me dit Alejandro, tu as parlé avec un défunt. Ce jour-là, le jour de cette rencontre, ce défunt venait de mourir dans un accident d'automobile, hors de la ville de Mexico, dans le nord du pays. Comme vous le voyez, il s'agit d'une autre matérialisation. Je pense que ce fut, réellement, l'ex-personnalité du défunt, ce qui se rendit visible et tangible à midi, devant tous les gens et à la lumière du soleil. 3. Maître, vous n'avez pas pu, en lui serrant la main, savoir si cette personne était vivante ou morte? Répondre. Je veux vous dire que l'ex-personnalité d'un mort est exactement comme la personne physique en vie, et que franchement, il n'y a aucune différence entre les vivants et les morts. La seule chose un peu étrange que j'avais sentie, était la froideur de cette main, froideur propre au sépulcre, c'est clair, un froid cadavérique. Cet homme parlait sur un ton quelque peu mortuaire, et je pressentis quelque chose de la mort, je le sentais comme mort, en quoi je ne me trompais pas. Quand j'insiste sur l'idée que c'est l'ex-personnalité des défunts, qui se rend visible et tangible, je n'écarte pas la possibilité que les désincarnés, eux-mêmes, puissent également se matérialiser dans le monde à trois dimensions, en absence totale de l'ex-personnalité funéraire. 4. Une de mes amies m'a raconté que son père est mort quand sa SUR se trouvait à Los Angeles, en Californie, et qu'elle arriva au chevet de leur père, alors qu'il était déjà enterré, elle ne parvint donc pas à le voir. À partir de ce jour, toutes les nuits, sa SUR se couchait dans la chambre de son père, et lui demandait de se matérialiser, pour qu'elle puisse le voir. Une nuit, comme elle était couchée, elle vit une main qui se posait sur un des meubles de la chambre, elle hurla d'épouvante, en même temps qu'elle entendait une voix qui lui disait « N'aie pas peur, Maria, je suis ton père. J'ai voulu voir si tu pourrais supporter de me voir en entier. Comme je vois qu'il n'en est pas ainsi, je m'en vais et te supplie de ne plus m'appeler, de me laisser en paix. Pourriez-vous m'expliquer, maître, si c'était l'âme ou l'ex-personnalité du défunt, qui s'est rendu visible et tangible ? Répondre à la question de la dame ici présente, me paraît, certes très intéressante. Je veux vous dire, mes amis, que l'ex-personnalité du défunt vit normalement dans les cimetières, même si elle s'échappe parfois de la fosse mortuaire pour devenir visible et tangible en quelque endroit, ou simplement pour rendre visite à quelqu'un. Il est indiscutable que, dans le cas de ce récit, ce n'était pas à proprement parler l'ex-personnalité du mort, qui s'est rendu en Paris visible, mais le fantôme du défunt, l'âme du défunt. Son discernement, ses paroles, sa prudence, etc., l'indiquent bien.